Bonjour à tous et bienvenue dans Active Info. On parle environnement aujourd'hui à l'occasion d'une réunion publique qui a lieu tout à l'heure à 20h au Centre social pluriel à Tours sur l'état de sécheresse en France et sur les méga-bassines. Pour rappel, le 29 septembre dernier, une réunion réunissant une quinzaine d'organisations politiques et militantes d'Indre-et-Loire a eu lieu sur le sujet de l'eau en Indre-et-Loire et en France. Et à sa suite, une tribune a été co-rédigée et co-signée afin de créer un socle commun de connaissances et d'engagement sur l'eau. En complément de cette première action, les co-signataires organisent donc une réunion publique ce soir, une réunion d'information au Centre social pluriel à Tours, comme je le disais au début. Cette réunion aura pour thème, l'état de sécheresse et la mobilisation contre les méga-bassines. On en parle avec Claire Longuet et Johan Jagger, tous les deux membres de l'Inter-Orga au 37. Bonjour.
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 Alors, pour rappel, les méga-bassines sont des ouvrages de stockage de l'eau destinée à l'agriculture. Le stockage s'effectue en hiver par pompage dans les nappes phréatiques et elles sont utilisées lors des périodes de sécheresse pour irriguer notamment les champs agricoles. Ces installations sont de plus en plus encouragées par le principal syndicat agricole, la FNSEA, et sont subventionnées par l'État. Ce modèle existe entre autres dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne, deux départements voisins. Vous dénoncez justement dans la tribune l'utilisation de ces méga-bassines et je crois également l'accaparement en eau par l'agro-industrie.
Tout à fait, c'est bien le cas. Il s'agit vraiment d'un modèle d'accaparement de l'eau pour des volumes colossaux, donc qui impactent le milieu et donc qui ne sont pas arbitrés de manière démocratique. Donc un accaparement au profit de l'agro-industrie et des irrigants, qui sont donc des agriculteurs qui représentent une minorité des agriculteurs dans le paysage français.
Alors vous dénoncez également dans cette tribune le fait que ces méga-bassines aient un impact négatif sur les écosystèmes environnants, c'est-à-dire...
Alors, les méga-bassines s'appellent méga parce qu'elles sont vraiment colossales. Les volumes d'eau sont vraiment, vraiment énormes. Et le principe est le suivant, c'est que l'eau est pompée en hiver, quand les réserves seraient censées donc être suffisantes dans les nappes. Or, à ce jour, les nappes phréatiques ne se rechargent pas suffisamment d'année en année. Chaque année, on constate des sécheresses assez impactantes pour les milieux. Malgré cela, les bassines sont remplies avec des dérogations des préfets, donc des départements en question, malgré des seuils et des sas vraiment inférieurs aux limites. Et cela impacte directement les milieux, donc directement les nappes phréatiques et tous les cours d'eau qui en dépendent, sachant qu'une nappe phréatique alimente les cours d'eau tout au long de l'année, et spécifiquement au printemps et en été, en période de tension. À ce jour, on voit dans le Marais Poitevin que toute la région, tout le département est impacté. La majorité des rivières étaient très largement à sec beaucoup plus tôt qu'habituellement, et le Marais Poitevin a perdu une surface énorme de zones humides avec un impact grandissant sur la faune et la flore.
Alors là, vous venez de donner cet exemple. À quel endroit également est-ce que l'on peut trouver ce genre de méga-bassines? Je disais la Vienne tout à l'heure, mais je crois qu'il y a d'autres projets également en cours. Est-ce que vous avez peur justement que ce modèle-là soit généralisé un peu partout en France?
Oui, alors effectivement, il y a la Vienne, les Deux-Sèvres, il y a aussi des projets dans le Berry et notamment aussi à la Clusaz. Et effectivement, il y a plusieurs sources, mais en tout cas indices qui montrent qu'effectivement le but de ces projets soit de les étendre, parce que effectivement ça répond entre guillemets à une peur de ces manques d'eau, même si c'est du coup une réponse destructrice du vivant. Et l'idée de se réunir dans l'Indre-et-Loire, c'est de soutenir les luttes déjà en cours contre ces projets comme on a cité les départements existants, et aussi porter une alerte pour que ça ne puisse pas s'étendre à d'autres endroits.
Voilà, je complète un tout petit peu. Donc, en effet, dans les Deux-Sèvres, le dispositif a très largement été mis en place. Aujourd'hui, on compte 19 bassines, 19 étaient en projet sur le bassin Sèvres-Niortais et le Mignon, donc dans les Deux-Sèvres, dont 7 en zone Natura 2000. Une trentaine sont déjà en activité en Vendée, une quinzaine en Charente, une dizaine en Charente-Maritime, une dizaine en Vienne et une demi-douzaine dans les Deux-Sèvres. Le projet du gouvernement est évidemment donc de généraliser ce projet à l'ensemble du territoire. On a pu observer cet été, en période de tension extrême, qu'un fort lobbying était à l'œuvre de la part de la FNSEA notamment, pour généraliser ces projets à tout le territoire, avec le soutien du gouvernement.
Alors justement, vous dénoncez aussi les subventions, puisque ce sont des projets qui sont subventionnés par l'État, voire la région parfois, et les départements.
Tout à fait. Les enveloppes donc sont multiples. L'État donc subventionne une grande partie, comme vous le dites, donc les régions et les départements également. Ici, on voit donc que l'État finance à hauteur de 70% ces projets, qui sont donc des projets pour des intérêts individuels et privés, que les chantiers donc profitent à une minorité pour des intérêts privés, et que ces chantiers notamment sont ensuite surveillés par la police. Donc encore une fois, pour les suites du projet, on voit que l'État finance également la surveillance de structures privées.
Alors cette réponse-là, ce modèle, les mégabassines, pour vous, ce n'est pas une réponse à l'urgence climatique et à la sécheresse ?
Ben, c'est comme pouvait l'expliquer Johan précédemment, il y a effectivement ce constat, je veux dire par des nombreux rapports du GIEC les précédentes années, et donc par aussi les scientifiques, les spécialistes sur la question de l'eau et du réchauffement climatique, qui montrent que les nappes souterraines ne se rechargent plus de la même manière selon en fait les cycles qu'on a connus jusqu'alors. Les nappes pourraient se remplir correctement en hiver et du coup ne seraient pas complètement asséchées en été. Enfin, on sent que ça, c'est quelque chose qui est fortement déréglé maintenant. Et que du coup, par rapport à ça, cette idée de pomper l'eau en hiver pour, entre guillemets, ne pas la gâcher ou voilà pour la réserver, elle est considérée comme plus valable aujourd'hui vu le dérèglement climatique.
Alors il est important justement pour vous que la population s'empare de cette thématique. C'est pourquoi vous proposez ce soir une réunion publique.
Tout à fait. Donc la tribune qui a été co-signée par une trentaine d'organisations et à ce jour également par un député européen, Benoît Biteau, par le député d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, et hier par le maire de Tours, ainsi que par des élus comme Betsabé Haas ou Christopher Sebaoun, deux élus et conseillers donc à la ville de Tours, qui travaillent sur la question de l'eau. Et donc voilà, ces ralliements sont quand même très importants. Ces prises de position annoncent un changement majeur dans le paysage français. Et ce soir, donc en effet, une réunion est co-organisée afin d'alerter le public sur la situation en Indre-et-Loire et sur les risques d'accaparement. Le but étant que ce sujet soit porté tout au long de l'année et que la municipalité et les élus en Indre-et-Loire s'emparent du sujet tout au long de l'année et qu'on ne voit pas simplement ce sujet émerger en période de tension estivale.
Oui, allez-y.
Non, mais je voulais juste préciser que donc pendant cette réunion, il y a l'envie du coup de parler de cette tribune, de ces organisations qui ont participé à l'élaboration de cette tribune. Et donc il y aura la présence aussi d'une technicienne rivière, de la Confédération paysanne pour porter voix sur la question de l'eau et contre l'accaparement de ce commun.
Donc la réunion a lieu ce soir au Centre social pluriel à Tours et c'est à 20h, c'est ça ?
Tout à fait, 20h au centre sectoriel au 2 avenue du Général de Gaulle à Tours.
Eh bien, merci beaucoup Claire Longu et Johan Jagger, tous les deux membres donc de l'Inter-Orga O37. Merci bien.
On voudrait juste rajouter un...
Oui, allez-y.
Oui, voilà, la mobilisation à venir dans les Deux-Sèvres est très importante et donc elle aura lieu les 29 et 30 octobre à Sainte-Soline pour le chantier en cours de la plus grande bassine française qui correspond au volume de la consommation de 13 400 personnes environ. Donc le plus grand chantier à ce jour, et c'est donc une mobilisation nationale où de nombreuses personnes sont attendues, et on invite vraiment tous les tourangeaux et tourangelles et quiconque souhaite s'élever contre l'accaparement à rejoindre donc cette mobilisation les 29 et 30 octobre à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
Eh bien c'est noté, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. On va faire une pause musicale et on retrouve après Léo et Vincent pour le reportage sur la vie associative locale.
M'en fais pas laisser
De retour dans Active Info et je suis en compagnie à présent de Léo et Vincent. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de la vie associative locale. Qui est-ce que vous avez rencontré cette semaine ?
Alors cette semaine, nous avons rencontré Sébastien Rousseau, le président du Billard Club Val d'Amboise qui se situe à Lussault-sur-Loire. Et je vous propose d'écouter l'interview que nous avons réalisée. Bonjour Sébastien Rousseau.
Bonjour.
Alors petite question, depuis quand le Billard Club Val d'Amboise existe-t-il et comment a-t-il été créé ?
Alors le Billard Club du Val d'Amboise, son nom actuel, parce qu'avant c'était le Billard Club Amboisien, qui a été créé à Amboise il y a 50 ans. Maintenant, après, avec plusieurs mutations, on a fait plusieurs déménagements sur Amboise. On a été amené à être dans la commune aussi de Nazelles-Négron. On a été une vingtaine d'années là-bas. Et après, maintenant, on est rendu à Lussault-sur-Loire pour trouver cette salle qui est maintenant un lieu magnifique. Fait partie des plus belles salles de France. On en est très satisfait d'ailleurs.
Dans votre club, combien y a-t-il d'adhérents ?
Alors, on est 80 adhérents pour le moment. On espère évoluer.
Et depuis quand en êtes-vous le responsable ?
10 ans que je suis le président du club, voilà, avec tous les aléas qui vont avec.
Il y a plusieurs variantes au billard, comme par exemple le billard français ou américain. Quelles sont les différences ?
Le billard français, en fait, c'est un billard, une table qui n'a pas de trou et il n'y a que 3 billes. On a une bille qui nous appartient tout le long de la partie et avec notre bille, on doit aller caramboler les deux autres. On fait comme on peut... pour les toucher, voilà. À partir du moment où on touche les deux autres billes, on fait un point et on continue la série jusqu'à temps qu'on loupe la bille. Et après, on a le billard pool. Alors le billard pool ou black ball, c'est ce qu'on a connu assez régulièrement dans les bars. En fait, c'est les jaunes, les rouges et puis la black pour rentrer à la fin, pour gagner la partie. On est équipé de 4 black balls qui sont tout nouveaux pour nous parce que ça fait maintenant un an qu'ils sont en place au sein de notre nouvelle salle. Et on a 8 billards français, qui nous fait un total de 12 tables de billards.
Et quelle est la variante la plus compliquée à apprendre ?
Je pense que tous les billards ont leurs complications, en fait, parce qu'il faut être assez entraîné à chacun, mais le plus complexe, je pense que c'est le billard français.
Quelle variante est la plus jouée ?
Le black ball. C'est ce qu'on a retrouvé le plus souvent dans les bistrots.
Est-ce que vous proposez dans votre club de jouer à toutes les variantes ?
Tout à fait. En fait, la personne qui se licencie chez nous a autant le droit de jouer au billard français ou au billard pool, ou black ball, pardon. On ouvre le champ à tout le monde. Hein. C'est pas que sur le billard français si on prend une licence ou que sur le black ball. Non, on peut jouer aux deux modes de jeu.
Et petite question un peu plus technique, à quoi sert la craie que l'on met au bout de la queue ?
Alors, au bout de la flèche, enfin, de la queue de billard, il y a un petit bout de procédé, c'est du cuir. Et en fait, quand le cuir est en contact avec la bille, ça glisse si on met pas de bleu en fait. Le bleu, c'est un antidérapant.
Au niveau des tournois, est-ce que vous en organisez ou vous participez principalement à des tournois ?
Alors, je fais les deux, moi personnellement. On organise et je participe aussi. On organise bientôt tous les week-ends et voire des fois en semaine.
Et quand vous participez à des tournois, là au niveau du club, est-ce que vous êtes bien classé au niveau départemental, s'il y a un classement ou peut-être même régional ?
Alors, moi perso ou le club ?
Les deux.
Les deux ? Alors, le club, on a tous les niveaux en fait, du débutant jusqu'au confirmé, débutants, régionaux, nationaux, enfin voilà, on a vraiment tous les niveaux. Et moi personnellement, je joue qu'au niveau national maintenant.
Merci pour votre temps et vos réponses.
Ben merci.
Nous venons donc d'écouter Sébastien Rousseau, le président du Billard Club Val d'Amboise. Si vous êtes intéressé et que vous avez envie de jouer au billard, Léo, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations ?
Oui. Les cours de billard se déroulent tous les mercredis à partir de 16h dans une belle salle de billard équipée au niveau de l'ancien restaurant de l'Aquarium de Touraine à Lussault-sur-Loire et tout le monde peut venir jouer. A noter aussi que le club organise un loto le 29 et 30 octobre prochain à la salle du Saul Michaud à Mont-Louis-sur-Loire. Le samedi 29, l'ouverture des portes se fait à partir de 18h et le loto commence à 20h. Et le dimanche 30, l'ouverture se fait à partir de midi et la partie commence à 14h. À gagner un lot de 1 000 € de bons d'achat.
Eh bien, merci beaucoup Léo et Vincent. C'est donc la fin de cette émission. Merci également à David Marion qui était à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radioactive, sur le www.radioactivefm.fr. Et on se retrouve demain à la même heure. Et nous, on se retrouve mercredi. Salut !